Mais on disait l'asile à l'époque, on ne disait pas hôpital psychiatrique. Et dans mon livre d'images, j'ai reproduit un petit article de journal que Thérèse a eu dans les mains, j'en suis sûr, pour des raisons que je ne vous explique pas maintenant, et où on dit des choses affreuses sur les asiles. Hein. Surtout que les bonnes gens de Lisieux, plus bêtes que méchants, colportaient ce bobard, à savoir que si M. Martin était devenu fou, c'était à cause de sa petite dernière qui était entrée trop jeune au Carmel. Hein, alors que ça n'avait rien à voir, bien sûr. M. Martin a quand même bénéficié de sa présence à Caen. L'asile du Bon Sauveur de Caen était l'un des meilleurs de France, parce qu'il avait été réformé par un prêtre qui a été béatifié par la suite, le bienheureux Pierre-François Jamet, qui a contribué, il n'est pas le seul, au XVIIIe siècle, on avait déjà commencé à le faire, qui a contribué à transformer la mentalité du monde médical vis-à-vis des aliénés. On a bien insisté sur le fait que c'était des malades à part entière qu'il fallait infiniment respecter. Alors tenez-vous bien, il y avait dans cet hôpital, dans cet asile, 215 religieuses. 215 religieuses pour soigner les malades et 200 à 300 employés. Les malades étaient répartis en 8 quartiers. Louis se retrouve au quartier des tranquilles et semi-tranquilles, qui comprend 500 hommes. Alors, comment Thérèse réagit-elle à la maladie mentale de son père? Vous le savez, en contemplant plus que jamais l'image de la Sainte Face dont elle a pris le nom un mois plus tôt. Elle est entrée au Carmel en pensant s'appeler Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, et puis en méditant à l'école de sa sœur tout ce que l'on pouvait découvrir en méditant l'image de la Sainte Face, elle demande à porter comme nom de religieuse Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et désormais, il va y avoir un va-et-vient dans la pensée de Thérèse entre le visage défiguré de Jésus et le visage défiguré de papa. Papa a perdu le beau visage que je lui ai connu, encore que Thérèse ne l'ait jamais revu. Elle ne l'a jamais revu à partir de ce moment-là. Non. Mais elle sait bien que, devenu fou, son papa a un visage qui est devenu hagard. Mais c'est pas grave. Le visage de Jésus, le visage de papa ressemble à celui de Jésus. Et de même qu'après avoir été défiguré durant sa passion, Jésus est aujourd'hui transfiguré, eh bien, papa sera un jour transfiguré. Et lorsque M. Martin mourra, quelques années plus tard, on mettra sur l'image funéraire, sur l'image mortuaire de M. Martin, l'image de la Sainte Face. Et Thérèse osera écrire en dessous de ses armoiries, lorsqu'elle recopiera les grandes dates de sa vie, 12 février 1889, notre grande richesse. Elle estime que cette maladie mentale de papa sera la grande richesse de la famille. Hein, parce que cette maladie dont elle souffrira énormément, hein, cette maladie sera pour toute la famille l'occasion de faire un grand progrès dans la foi, l'espérance et la charité. Bon, Thérèse sait qu'elle a tout à fait le droit de pleurer de la maladie de son papa, parce que le père Pichon, son père spirituel, insistait beaucoup sur le fait qu'à Gethsémani, Jésus a été triste. Elle a compris dès l'âge de 16 ans que la tristesse n'est pas forcément un péché, puisque Jésus lui-même l'a connu à Gethsémani. « Nous voudrions souffrir grandement, écrit-elle à sa sœur, généreusement, quelle illusion. Jésus a souffert avec tristesse. Sans tristesse, est-ce que l'âme souffrirait ?» Elle a bien compris cette distinction dont je vous ai souvent parlé l'année dernière à l'occasion du jubilé, qu'on peut jubiler dans le fond de son cœur tout en ayant de grandes tristesses et de grandes déceptions, ce qui a été le cas de Jésus lui-même, ce qui a été le cas de tous les saints. Hein? Donc Thérèse a compris cela très tôt, bon, parce que elle a eu la chance d'avoir un enseignement très précis là-dessus. Donc, dans ces moments de lucidité, eh bien, Monsieur Martin reconnaît qu'il avait sans doute besoin de cette épreuve pour maîtriser, pour purifier son orgueil. Dans ces moments de lucidité, il ne se plaint pas. « Je suis très bien ici, confie-t-il, et j'y suis par la volonté de Dieu. » Toujours ce grand mystère que la maladie, sans être la volonté de Dieu, est permise par Dieu, et donc les saints ne s'embêtent pas, ils disent « que ta volonté soit faite ». J'avais besoin de cette épreuve, je crois que c'est pour abattre mon orgueil. Au médecin, il déclara un jour « J'avais toujours été habitué à commander, et je me vois réduit à obéir, c'est dur. Mais je sais pourquoi le bon Dieu m'a donné cette épreuve. Je n'avais jamais eu d'humiliation dans ma vie, il m'en fallait une. Le médecin a répondu, « Eh bien, celle-là, elle peut compter. Hmm? » Dans ses bons moments, il va chaque jour à la messe, dans la chapelle de Saint-Joseph, et y communie. Il assiste au moine Marie. Un moment très éprouvant pour lui, c'est lorsque l'oncle Guérin, le 8 juin 1889, donc quelques mois seulement après son internement, comme on disait, lui fera signifier l'interdiction de gérer ses biens par deux notaires qui agiront sans ménagement. Bon, il était grand temps, évidemment, qu'on l'empêche de signer des chèques. Comme il perdait la tête, il risquait de dilapider sa fortune n'importe comment. Ce n'était pas du tout de la méchanceté de la part de la famille. Il doit signer une renonciation. Il le fait en sanglotant. « Mes enfants m'abandonnent et n'ont plus confiance en moi. » Et ce jugement sera affiché à travers tout le Calvados, notamment chez les notaires. À la fin de l'année, le 25 décembre, le bail des Buissonnets est résilié et les meubles sont dispersés. Quand il sera paralysé des jambes, qu'il ne risque plus de faire de fugue, l'asile de Caen accepte de le rendre à la famille. L'oncle Guérin va louer une maison pas loin de chez lui, rue Labbé, à Lisieux, pour que le malade puisse s'y installer avec Léonie et Céline. Céline aurait bien voulu entrer au Carmel, elle l'avait confié à son papa avant qu'il ne tombe malade, mais évidemment, devant la maladie de son papa, elle a attendu la mort du papa pour entrer elle-même au Carmel. Le malade fait plusieurs séjours au château de Lamus. Monsieur Guérin est devenu richissime à la fin de sa vie. Après avoir revendu sa pharmacie, il a hérité, sans l'avoir du tout cherché, il a hérité d'un certain monsieur David qui était richissime et qui, par reconnaissance pour monsieur Guérin qui l'avait aidé à retrouver la foi sur la fin de ses jours, lui a légué toute sa fortune. Et notamment une immense propriété à la porte d'Évreux, sur une colline aux environs d'Évreux qui est devenue actuellement un très grand hôpital. On a conservé le château de l'époque et c'est là que monsieur Martin est mort au cours d'un séjour qu'il a fait en 1894. Au Carmel, Thérèse écrit à Léonie, qui est entrée une nouvelle fois à la visitation de Caen, « La mort de papa ne me fait pas l'effet d'une mort, mais d'une véritable vie. Je le retrouve après 6 ans d'absence. » Et l'année suivante, elle écrira dans son autobiographie, « Les 3 années du martyre de papa me paraissent les plus aimables, les plus fructueuses de toute notre vie. Je ne les donnerai pas pour toutes les extases et les révélations des saints. Mon cœur déborde de reconnaissance en pensant à ce trésor inestimable qui doit causer une sainte jalousie aux anges de la céleste cour. » 2 mois avant de mourir, elle écrira à l'abbé Bélière, « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. » Le jugement d'une sainte passionnée de vérité. J'ai oublié de vous dire que cette chère Léonie n'a jamais été jalouse de ses sœurs. Elle, qui était beaucoup moins douée que les autres, on n'a jamais découvert chez elle de traces de jalousie, c'est curieux. Alors qu'elle sera perpétuellement oubliée, même par les ecclésiastiques de haut niveau. Quand on bénira la basilique de Lisieux en 1937, l'évêque du lieu, Monseigneur Picot, fera un discours dans lequel il évoquera des 3 sœurs carmélites qui vivent encore à Lisieux et il oubliera complètement de parler de Léonie qui, elle aussi, est religieuse à la visitation de Caen. Et la communauté a donné un poste de TSF, comme on disait à l'époque, pour écouter par la radio le message du pape et de Monseigneur Picot. Et en entendant à la radio qu'on a complètement oublié de parler d'elle, Léonie n'a que cette réflexion. « Oh, Pauline doit être désolée qu'on m'ait oublié. » C'est délicieux, vous voyez, c'est ça que j'aime beaucoup, exalter ce personnage de Léonie, la pauvre Léonie, comme on disait souvent en famille. On disait « pauvre Léon », on ne lisait pas devant elle, bien sûr, mais Madame Martin, elle a offert sa vie en disant « mon Dieu, pourvu que Léonie arrive à s'en sortir ». Donc, je pense que vous auriez avantage, si vous étudiez la vie de Monsieur et Madame Martin, de repérer davantage le cas de cette fille difficile que Thérèse aimait beaucoup. Elle avait été sa marraine de confirmation.